quand un monsieur fait des tournées, et ces opérations, il fait son père ou pas?
Voilà, c'est payant puisqu'il ne travaille plus en tant qu'économiste. Et c'est, en fait, il considère la Rokia. À travers la Rokia, il rassemble un ensemble de choses. Déjà, ça lui permet de se réaliser en tant que musulman, de vivre pleinement sa foi. Et ça lui permet aussi de transmettre le message, de continuer sa prédication. Et aussi de vivre, puisqu'il vit matériellement de... de la Rokia, c'est comme un soin, c'est considéré comme un soin pour traiter des maux occultes. Et il se situe dans la tradithérapie, selon ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a établi. Donc lui-même, il se situe dans ce créneau, la tradithérapie, et il a des rafis qu'il a formés en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali, qui sont des tradithérapeutes et qui ont noué des partenariats avec des hôpitaux et des cliniques. Donc c'est payant puisque ça demande beaucoup d'énergie. Enfin, ça ne peut pas être gratuit puisqu'il lui passe beaucoup de temps. Il ne travaille plus en tant qu'économiste. Et puis aussi, c'est beaucoup d'efforts. C'est un travail à part entière qui nécessite beaucoup d'efforts. Et il se fait payer 15 000 francs CFA en Afrique de l'Ouest, 50 euros en France et 50 pounds en Angleterre. Et je ne connais pas le tarif dans la zone américaine. Voilà.
Par rapport aux commentaires d'Homero, si...
Voilà, donc merci pour ces commentaires vraiment enrichissants. Et je m'étais posé un certain nombre d'entre eux. Notamment le fait qu'il remet en cause. Je ne connais pas exactement la manière dont les Arabes considèrent. L'islam, j'ai une idée juste préconçue de la manière dont les Arabes considèrent la religion en Afrique de l'Ouest. Bon, d'une manière, c'est vrai, altière, c'est sûr, mais j'ai pas de source pour être un petit peu scientifique ou quoi. J'ai juste un vécu personnel, mais c'est vrai qu'à travers son approche, qu'il remet en cause l'approche altière, disons, de l'islam arabe vis-à-vis de l'islam qui est en vigueur en Afrique de l'Ouest, dans le sens où il prend au sérieux la question du raïb, du monde invisible, et qu'il en développe une vision, une interprétation rationnelle. Donc si cela agit de cette manière, c'est parce qu'il y a eu telle chose de fait. Et donc c'est surtout le fait qu'ils prennent au sérieux ça et que ça et qu'ils considèrent que la pratique talismanique et sorcellaire n'est pas spécifique à l'Afrique de l'Ouest, que lui il déconstruit ça. Et il met beaucoup en avant aussi l'Afrique de l'Ouest et il y accorde beaucoup de temps, puisque c'est plus facile pour lui d'organiser des campagnes d'un point de vue administratif. Et aussi, au niveau des mentalités, c'est plus facile pour lui de diffuser son message. Ensuite, concernant son style de prédication de télé-évangéliste américain, ça c'est vraiment... c'est vrai qu'il joue énormément sur ça. Dès qu'il peut être filmé ou qu'on lui demande d'être filmé, il ne refuse pas, puisque ça lui permet, son but c'est de faire passer un maximum le message, quel qu'il soit. Mais par contre, il n'est pas beaucoup dans la mise en scène de soi. Ça, contrairement à Amr Khaled, c'est vraiment une mise en avant de soi. Ça demande moins de moyens. C'est plus, il y a moins de mise en scène de soi devant des projecteurs. C'est moins calculé. C'est un petit peu spontané. Ensuite, concernant les captages politiques, ça c'est vraiment vérifiable dans les milieux dans les milieux qu'il a créés. Le complotisme est vraiment très développé. C'est pour ça que Le fait, son mouvement de réforme ne permet pas de développer une idéologie politique, c'est essentiellement, lui-même il le dit, la chose politique, c'est pas trop sa spécialisation. Lui, traiter les mots, c'est le côté spirituel et traiter les mots occultes, mais de là à élaborer une idéologie, à diffuser des valeurs qui permettent de mobiliser autour d'un projet collectif politique, c'est vraiment pas par ce vecteur-là que ça peut se faire, puisque déjà ça reprend vraiment tous les stéréotypes qu'on peut voir sur Internet, sur la théorie du complot. Il y a aussi les reptiliens auprès de telle famille royale liée à tel captage qui a été fait. Et le captage, selon lui, c'est un témoignage de djinn, donc c'est pas du tout fiable, c'est pas scientifique, mais quand même la manière dont il approche, il lui donne beaucoup de sérieux, alors que deux captages sur une même personne peuvent révéler des choses vraiment contradictoires. Mais malgré tout, il accorde beaucoup, du sérieux et au captage, notamment politique. Voilà.
Il a fait un plateau chez Tunkara.
Ah.
Il a fait un captage en direct chez Tunkara. Et Tunkara n'a pas été très gentil.
Il n'est jamais gentil.
Il n'a pas été très gentil du tout.
Il est toujours comme ça.
C'est les principes de Tunkara.
C'est qui Tunkara?
Tunkara, c'est le ruquier sénégalais.
C'est qui?
C'est un journaliste sénégalais.
Non, c'est un journaliste sénégalais très connu pour ses émissions.
Des invités atypiques.
Où il y a plein d'invités de tous horizons. Et donc, il y a Berouf qui est venu, qui a fait un captage en direct. Et Tunkara, pendant que la femme donc exprimait. Donc, que le djinn s'exprimait à travers la femme.
Oui, je l'ai vu.
Lui disait, bon, arrête de foutre de moi, quoi. Donc, c'était assez
conflictuel.
Fort, assez conflictuel. Bon,
j'ai oublié de préciser que Romero est un Sénégalais dans l'âme, c'est pour ça.
Ça m'a râlé.
Ok, bon. Je veux commencer à partir du point dominant-dominé. S'il s'agit au foyer et la population majoritaire, c'est-à-dire renvoie après à la domination. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le délégué qui est voté, c'est-à-dire que élu, et ce sont les majorités qui est élu. Le délégué, du coup, si les subsahariens sont majoritaires, ils vont voter pour un subsaharien. Alors du coup, le délégué viendra des subsahariens. Un représentant du foyer aussi sera un subsaharien. Actuellement, si je prends le foyer Monokion, le délégué c'est un subsaharien. Les représentants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 80, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un arabe qui ne se présente pas même alors du coup, tout le monde sont subsahariens parce que les majorités sont des subsahariens. Alors du coup, ce côté-là, les maghrébins se soumettent à cette domination qui est devenue. Avant, le délégué c'était un maghrébin et les subsahariens, vu qu'ils n'étaient pas majorités, ils ne pouvaient pas voter. Alors du coup, chaque population vote pour la personne qui vient de cette population. Alors, côté interaction, l'interaction au sein de lieux de culte n'a rien à voir avec l'interaction dans d'autres espaces publics et collectifs. Dans le lieu de culte, tout tourne autour de l'imam, parce dans un lieu de culte, il n'y a pas une sociabilité réelle, parce c'est un lieu spirituel, tout est calme, mais l'imam peut provoquer quelque chose qu'on peut dire, la mobilisation d'une population, ou bien la réaction d'une population peut être différente de l'autre par rapport à l'imam qui est devant. Vous voyez? Ça dépend. Je peux expliquer, ça va prendre du temps. Là, je vais aller vers côté, ethnicité, Alors, du coup, ce côté-là, le fait que je parle, de, de la population maghrébine, en fait, ici, et la population subsaharienne. Et moi, en fait, c'est lié aussi au point méthodologique, en fait, parce que j'ai pris, en fait, le point de vue de Barthes. Alors, du coup, parce que sur le côté langue, en fait, la langue officielle de pays maghrébin, c'est l'arabe. Alors, l'histoire, en fait, aussi, sur le côté histoire, en fait, cette histoire de l'arabisation du Maghreb, en fait, ils sont quand même là-dedans. Et eux-mêmes, en fait, ils sont vus des autres aussi comme des pays arabes et des arabes. Alors, du coup, le fait qu'il y a des... L'autre, ils sont vus et qu'eux-mêmes, en fait, dans leur pays... c'est vrai que même les subsahariens sont pas tous en fait des soninkés. Il y a des Bambara, il y a des Malinké, il y a des alors du coup, mais nous sommes d'une population de l'Afrique subsaharienne et on est, c'est-à-dire qu'on est commun dans une histoire et qu'on peut être défini par un critère. Alors c'est comme cela aussi en fait. Moi en fait j'ai opposé les deux populations comme cela. Bon, en fait il y a un autre chercheur qui peut être différent de mes méthodes, mais en fait j'argumente quand même comment je puis, en fait, parce que après on pourra pas, en fait, parce que si un subsaharien voit un maghrébin, il va pas dire que c'est un berbère ou c'est un arabe, hein. il va le considérer comme un arabe tout court, il va pas regarder ce côté là bon. Un arabe aussi qui va voir un africain, il va dire c'est un bambara ou c'est un soninké. Ils veulent le prendre en tant qu'un Africain, un subsaharien. Alors du coup, c'est ce côté-là, en fait. Moi, j'ai pris, en fait, cette méthode dans mes recherches. Voilà, c'est... je ne sais pas si j'ai répondu à...
Pour Barthes, c'est les frontières ethniques.
Oui, c'est les frontières ethniques, oui, c'est ça.
Alors, Khaled. Ça va être rapide. Ce que je veux dire, c'est que la population... je veux dire, les habitants subsahariens ou maghrébins fréquentent toutes les mosquées en fonction de la proximité de leur quartier. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une association soninkée que tous les soninkés vont aller faire la prière dans la mosquée soninkée. S'ils habitent à côté de la mosquée de Nôle, ils iront à la mosquée de Nôle. S'ils habitent à Bourzu, dans un quartier, ils iront à proximité. Mais par contre, l'association, quand elle a été créée par des individus. Et on se rend compte que ces individus, souvent, se font les premiers, disons, les premiers arrivants en fonction de leur socialisation au départ. Puis les Marocains, vous parliez de Tebler. Foi et pratique. L'association Foi et pratique a été créée en 1982 à Mulhouse. En 1982, on leur a prêté un local, il y a une église dans le quartier de Bourzwiller qui leur a prêté une église. Tous les gens du quartier priaient dans cette mosquée, soit des maghrébins ou des subsahariens. Quand il y a eu cette volonté de créer un conseil islamique de Mulhouse autour d'une grande mosquée au-delà des appartenances ethniques, Foi et pratique était partante. Et quand il y a eu l'échec, Foi et pratique a été la première association que la ville a aidée pour la création d'une mosquée dans le quartier. Parce que justement, les gens du quartier se réunissaient là. Maintenant, est-ce que ça serait intéressant d'étudier s'ils ont encore la même dynamique qu'ils avaient à l'époque. Et s'ils sont, qui sont les individus qui fréquentent, est-ce qu'il y a vraiment des gens de subsahariens et tout ça. Café Teblir, association. L'association des soninkés s'appelait l'Amicale des Africains. Elle a changé de nom au bout de 2 ans. Pourquoi elle a changé de nom? Ça serait intéressant à étudier. Donc peut-être qu'elle ne représentait pas tous les Africains. Quand on regarde l'extrait du tribunal, la majorité sont des Maliens, et certains sont nés dans le même village. Donc dans la ville, il y a une autre association, l'association des Waoundé. C'est une association, c'est un village, Waoundé, je crois, au Sénégal. Donc c'est une association qui s'est... Qui s'est créé autour de gens qui habitent dans le même village. C'est intéressant. Café intercommunautaire. À l'époque, il y avait les PMU. C'est intéressant, mais à l'époque, ils se rencontraient dans les PMU. Aujourd'hui, où est-ce que se rencontrent les anciens? Donc, ils se rencontrent à la mosquée, tout ça. Ça peut être intéressant. Ça mérite des approfondissements sociologiques qu'on peut étendre et qui peuvent être intéressants.
Merci.